Jason Jones et Elizabeth Reyes sortaient tout juste de la classe de cette dernière lorsqu'un objet dur heurta Jason par derrière. Jason trébucha, manqua de se rétablir, mais fut frappé une deuxième fois derrière le genou gauche. Il tomba face contre terre et sentit l'air chasser de ses poumons avec un sifflement. Puis une petite silhouette furieuse se jeta sur lui et le roua de coups sur la nuque, le côté du visage, le sommet du crâne. Les mains de Jason étaient bloquées sous son ventre, des boules dures martelaient ses reins. Il essaya de prendre appui sur ses bras, de se relever tant bien que mal, mais un manuel au coin acéré le percuta à la tempe. « Vous l'avez tué, vous l'avez tué, vous l'avez tué, salaud espèce de connard, elle m'avait prévenu contre vous, elle m'avait prévenu. Ethan, au nom du ciel, Ethan Hastings, arrête ça !» Ethan Hastings se souciait très peu de l'ordre de Madame Lisbeth. D'après ce que Jason comprenait dans l'état de stupeur où il se trouvait, le passionné d'informatique était armé d'un livre de classe et savait s'en servir. Le coin du manuel lui avait entaillé la paupière et Jason sentit du sang dégouliner sur sa tempe, tandis que le gamin lui assénait un nouveau coup. On accourait au pas de course, d'autres gens attirés par l'incident. « Ethan, Ethan !» criait une voix masculine dans le couloir. « Laisse-le tranquille immédiatement !»«
Debout, debout, debout !» pensait Jason. « Bon sang, appuie-toi sur tes mains et debout !»
« Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais! Comment avez-vous osé? Comment avez-vous osé ?» Le troisième coup atteignit Jason derrière l'oreille et il vit 36 chandelles. Sa vision se brouilla. Il sentit qu'il allait tourner de l'œil. Sa poitrine était oppressée, il n'arrivait pas à inspirer et ses poumons brûlaient. Il allait s'évanouir. Il ne pouvait pas se permettre de s'évanouir.
« Je vous déteste! Je vous déteste !»
Puis, aussi vite que cela avait commencé, cela s'arrêta. Des pieds arrivèrent. Des bras d'hommes puissants attrapèrent le corps de l'élève de quatrième en furie et l'écartèrent, toujours se débattant, du dos de Jason. Celui-ci en profita pour se retourner et chercher péniblement sa respiration comme une baleine échouée. Il avait mal à la poitrine, de même qu'à la tête, au dos, derrière le genou, où il avait apparemment été frappé avec toute la collection de l'Encyclopédia Britannica. Saloperie. Madame Lisbeth le regardait, le front soucieux.
« Ça va ?» « Ne bougez pas, on va appeler une ambulance. »
« Non, » essaya-t-il de répondre, mais le mot ne sortit pas. Il réussit enfin à prendre une inspiration et, grâce à cette bouffée bienfaisante, sa poitrine se dilata. Il réussit mieux à prononcer le mot au moment de l'expiration, même si c'était un murmure pitoyable. « Non !»«
Ne soyez pas stupide !»«
Non !» Il roula à quatre pattes, la tête rentrée, encore sonnée. Mal à la jambe... Mal au visage, la poitrine mieux, vous voyez, ça progressait. Il parvint à se relever et prit conscience qu'il se trouvait au milieu d'une centaine d'adolescents ébahis et d'une demi-douzaine d'adultes très inquiets. Ethan Hastings était immobilisé par un homme qui semblait être le professeur de gym. Le gamin, 40 kilos tout mouillé, se débattait toujours comme un beau diable et son visage de rouquin couvert de taches de rousseur proclamait une haine sans mélange pour Jason Jones. Celui-ci se tâta le visage et essuya le premier filet de sang, puis le deuxième. Le gamin l'avait bien coupé près de l'œil gauche, mais ça guérirait.
« Au nom du ciel !»
Le principal arriva enfin sur les lieux. Phil Stewart posa un regard sur le visage meurtri et ensanglanté de Jason, puis sur celui, furieux, d'Ethan, et lança des ordres brefs. « Toi !» dit-il en désignant Ethan, « dans mon bureau. » « Et vous, » ajouta-t-il en désignant les élèves bouche bée, « dans vos classes. » Le principal avait parlé. Les enfants se dispersèrent aussi rapidement qu'ils s'étaient attroupés et Jason se retrouva à suivre Ethan Hastings dans le couloir, la main inquiète de Madame Lisbeth sur son coude. Il essayait de comprendre ce qui venait de lui arriver et n'y réussissait pas trop.
« Lui ?» demanda-t-il à voix basse.
Toujours au gymnase. Je vais demander à Jenna de l'emmener dans la classe de travaux ménagers. Il passe la moitié du temps à faire des gâteaux. Ça devrait l'occuper. Merci. Ils arrivèrent à l'infirmerie. Elisabeth le fit entrer dans la pièce où il rencontra le regard stupéfait d'une femme imposante en blouse d'infirmière à motif de chat. « Vous bagarrez encore dans la cour de récré à votre âge ?» demanda-t-elle. « Vous savez quoi ? Ça peut être vif comme l'éclair, un petit génie de l'informatique. » L'infirmière regarda Elisabeth avec des yeux ronds. « Il y a eu une altercation, » expliqua l'enseignante. « Monsieur Jones a malheureusement été agressé par un élève. » Les yeux de l'infirmière s'arrondirent encore davantage. Jason y vit comme un affront à sa virilité et se sentit obligé d'ajouter « Il y avait un livre de classe ». Cette exclamation parut rompre le charme et l'infirmière se mit au travail, fit toute une histoire pour sa paupière entaillée, lui donna de la glace pour l'hématome qui se formait rapidement sur sa tête. « Il faudrait que vous preniez 2 aspirines, lui indiqua-t-elle, et que vous dormiez 8 heures. » Il fut pris d'une envie de rire. 8 heures. Il faudrait qu'il dorme 8 jours, mais ça n'arriverait pas. Oh que non. Il ressortit de l'infirmerie d'un pas mal assuré et retourna à l'administration, certain que les aventures ne faisaient que commencer. Il trouva Phil Stewart, assis derrière un énorme bureau en chêne, le genre de meuble censé inspirer le respect aux élèves comme aux adultes. Un petit écran plat occupait le coin gauche du bureau, à côté d'un téléphone qui avait l'air sophistiqué. Il n'y avait rien d'autre sur le bureau, hormis un sous-main et les mains jointes de Phil. Ethan Hastings était assis dans un fauteuil, dans un coin, comme il se doit. Il leva les yeux à l'entrée de Jason et un instant sembla sur le point de lancer un nouvel assaut. Jason prit la résolution de rester debout. « J'ai appelé les parents d'Ethan, » indiqua le principal d'une voix claire, « ainsi que la police. Une agression de la part d'un élève est une affaire très grave. J'ai déjà informé les parents d'Ethan qu'il sera suspendu pour les 5 jours à venir et qu'un conseil de discipline est prévu en présence de notre intendant. Il va de soi que M. Jones est en droit de porter plainte pour voies de fait auprès de la police. » Ethan blêmit, puis serra des poings insoumis et baissa les yeux. « Je ne pense pas que ce sera nécessaire, » dit Jason. « Vous vous êtes regardé dans un miroir ?» railla Phil. Jason était philosophe. « Je comprends dans quel état on peut arriver à se mettre dans un moment pareil. Ça vaut pour Ethan et pour moi. » S'il avait espéré instaurer une relation entre lui et le petit rouquin, c'était raté. Ethan lui lança un nouveau regard menaçant, puis la porte du bureau s'ouvrit et Adèle passa une tête. « La police est là. Faites entrer. » La porte s'ouvrit plus largement et Jason eut la désagréable surprise de voir le commandant Didi Warren et son comparse, le capitaine Miller. N'envoyait-on pas en général des agents en tenue pour ce genre d'incident mineur? À moins naturellement que les enquêteurs n'en aient entendu parler sur les fréquences de la police et qu'ils aient fait le rapprochement. Jason jeta un regard navré vers Ethan Hastings, comprenant à présent que la volée de coups qu'il lui avait infligée n'était rien comparée au tort qu'il était sur le point de lui causer. « Commandant Didi Warren, » se présenta l'enquêtrice, puis Miller en fit autant. Ils serrèrent la main de Phil, adressèrent un signe de tête à Ethan, puis lancèrent vers Jason le genre de regard cinglant que la plupart des policiers réservent aux membres de gangs ou aux tueurs en série. « Marie est pleurée, » se répéta-t-il, mais il n'avait plus vraiment envie de jouer aujourd'hui. « Il paraît qu'il y a eu un incident, » dit Warren. Phil fit un geste vers Ethan, la tête basse entre ses épaules saillantes. « Ethan ? » demanda-t-il posément. « C'est de sa faute !» explosa le garçon en relevant la tête et en montrant Jason du doigt. « Madame Sandra m'avait prévenu à son sujet. Elle m'avait prévenu. » Didi lança vers Jason un regard toujours calme, mais un brin suffisant. « Qu'a dit Madame Sandra, Ethan ?»« Elle s'est mariée jeune, » expliqua le garçon avec ferveur. « À 18 ans. Ça n'est pas beaucoup plus vieux que moi, vous savez. » Les adultes ne répondirent rien. « Mais elle ne l'aimait plus, » continua le garçon d'un air dédaigneux en toisant Jason. « Elle m'a dit qu'elle ne vous aimait plus. » Ces mots faisaient-ils mal ? Jason l'ignorait. Il se trouvait dans son état second, et dans ces cas-là, rien ne pouvait l'atteindre. C'était tout l'intérêt. La raison même pour laquelle il avait développé cette faculté à une époque où, trop jeune et trop faible, il n'avait aucun autre moyen d'arrêter la douleur. « Sandy m'a dit qu'elle travaillait sur un projet avec toi, » dit-il doucement. « Elle m'a dit que tu étais un excellent élève, Ethan, et qu'elle appréciait beaucoup de travailler avec toi. » Ethan rougit, baissa de nouveau la tête. « Ça fait combien de temps que tu es amoureux d'elle ?» insista Jason, conscient que Didi se raidissait à côté de lui tandis que les yeux de Phil Stewart s'agrandissaient de stupeur. « Non !» commença le principal. « Vous ne la méritez pas !» explosa Ethan. « Vous travaillez tout le temps, vous la laissez seule. Moi, je la traitais mieux. Je passerais chaque seconde de chaque journée avec elle, si je pouvais. Je l'aide pour son module d'enseignement, vous savez. Je vais au match de basket, rien que pour elle. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime une personne. On reste avec elle, on lui parle, on est avec elle. « Tu étais souvent avec Madame Sandra ?» demanda le commandant Warren. « Tous les jours, pendant son heure de battement.
Je lui apprenais tout sur la navigation sur Internet, comment l'expliquer au sixième. Je suis très douée en informatique, vous savez. Merde, se dit Jason, putain de merde. Ethan, est-ce qu'il t'est arrivé de sortir avec Madame Sandra ? Demanda Warren. Je la voyais tous les jeudis au match de basket. Le jeudi soir est mon soir préféré de toute la semaine. Est-ce que vous êtes allé chez elle ou peut-être ailleurs ? Le principal semblait au bord de la crise cardiaque. Mais Ethan secoua la tête. « Non », répondit-il à regret, puis son regard exalté se reporta sur Jason. Elle disait que je pouvais pas venir, que ce serait trop dangereux. « Qu'a-t-elle dit d'autre à propos de son mari ?» demanda Warren. Le garçon haussa les épaules. « Juste des choses, des trucs. Mais elle n'était pas obligée de tout dire. Je voyais bien par moi-même. Elle était très seule, triste. Un jour, elle s'est même mise à pleurer. Elle voulait le quitter, je voyais bien, mais elle avait peur. » Enfin, il n'y a qu'à le regarder. Moi aussi, j'aurais peur. Tout le monde se retourna consciencieusement vers Jason, ses yeux cernés, son visage envahi de barbe. Il baissa à nouveau les yeux vers le sol. Marie est pleurée, Marie est pleurée. Ethan, on dirait que vous parliez beaucoup, Madame Sandra et toi. Est-ce que tu lui envoyais des messages sur Internet? Tu l'appelais sur son portable? Tu la contactais d'une autre manière? Demanda Didi. Oui, bien sûr. Mais elle m'a dit de ne pas appeler ou écrire trop souvent. Elle ne voulait pas éveiller les soupçons de son mari. Nouveau regard furieux. Donc, Madame Sandra et toi, vous vous voyez en dehors du collège ? Intervint alors le principal au comble de l'inquiétude. Mais Ethan ne le détrompa pas. Vous avez déjà dit, on se voyait pendant son heure de battement et le jeudi soir au match de baseball. Que faisiez-vous d'autre pendant les matchs de baseball ? Demanda Warren. Comment ça ? Vous alliez vous promener ensemble, autour du collège, par exemple? Vous vous installiez pour discuter dans une classe ou autre chose? Le garçon la regarda d'un air réprobateur. Bien sûr que non. Elle avait sa fille avec elle. Elle ne pouvait pas partir comme ça en laissant lui toute seule. Madame Sandra est une très bonne maman. Warren lança un regard de côté à Jason. Je travaille le jeudi soir, indiqua posément celui-ci. Donc oui, elle avait lui avec elle. Le commandant hocha légèrement la tête et il vit qu'elle se posait la même question que lui. Ethan Hastings pensait de toute évidence entretenir une relation quelconque avec Sandy. Mais jusqu'où cette relation était-elle allée? Véritable liaison physique entre élève et enseignante ou simple affabulation d'un gamin peu à l'aise en société? A posteriori, la brillante chevelure blonde de Sandy et son visage juvénile la rendaient assez semblable à d'autres jeunes et jolies enseignantes blondes récemment arrêtée pour avoir entretenu des relations amoureuses avec des élèves adolescents. Et Ethan avait sans doute vu juste. Il ne faisait aucun doute que Sandra se sentait seule, négligée, surmenée par les exigences conjuguées du travail et de la maternité. De toute évidence, Ethan était un auditeur en adoration, prompt à la couvrir d'éloges et d'attention. Mais il n'était encore qu'un enfant. Jason aurait aimé penser que si sa femme l'avait trompé, ce n'était pas avec un garçon de 13 ans. Cela dit, les autres maris en avaient sans doute pensé autant. On frappa de nouveau discrètement à la porte du bureau, qui s'entr'ouvrit pour laisser apparaître Adèle. Les parents d'Ethan Hastings sont là. Le principal fit un signe de tête et la porte s'ouvrit devant deux parents complètement abasourdis et bouleversés. « Ethan !» s'écria la mère en se frayant un chemin entre les adultes pour aller vers son fils. Celui-ci jeta ses bras autour de sa taille et le Don Juan en herbe se transforma aussitôt en un petit garçon apeuré. Ils avaient les mêmes cheveux, songea distraitement Jason. La coiffure courte de la mère, d'un blond tirant sur le roux, se confondait avec les poils de carotte ébouriffés de son fils. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, l'accord parfait. Il se força à regagner son état second, cet endroit magique où rien ne pouvait l'atteindre. Je ne comprends pas. Commença le père avant de remarquer le pansement sur le visage de Jason. « Il vous a agressé ? Mon fils a agressé un adulte ?»« Il a un crochet du droit prometteur, » répondit Jason avant d'ajouter en voyant que l'homme se décomposait. « Ne vous inquiétez pas, je ne porterai pas plainte. » Le commandant Warren le considéra avec un regard d'intérêt. « Ethan était bouleversé, » continua Jason. « Je peux comprendre ça. Moi-même, je ne suis pas dans une très bonne semaine. » Le père semblait encore plus désorienté, mais Jason n'avait plus envie de donner des explications. Il traversait un passage à vide. Voilà, il allait rentrer chez lui. Sans se donner la peine de dire au revoir,
Jason Jones quitta le bureau pendant que, derrière lui, le principal expliquait le dit incident et les arcanes du système disciplinaire à deux parents qui pensaient sans doute jusque-là que leur fils passionné d'informatique ne ferait pas de mal à une mouche. Le commandant Warren le rattrapa dans le hall du collège. Jason ne fut pas surpris. Il était fatigué et à bout, donc elle allait pousser son avantage. « Vous partez déjà ?» l'interpella-t-elle. « Je dois récupérer ma fille. » « Vous avez finalement trouvé quelqu'un digne de la surveiller ?» Il se retourna, le visage serein, refusant de mordre à l'hameçon. « Elle est dans la classe de travaux ménagers. Ils font des gâteaux, à ce que j'ai compris. »« Sa mère lui manque, non ?» Il ne répondit rien. « Ça doit être dur, à 4 ans, d'être la dernière personne à avoir vu sa mère en vie. » Il ne répondit rien. Didi croisa les bras et s'approcha de lui. Elle avait une démarche agressive, avec ses longues jambes vêtues de jeans. Une dominante qui jaugeait sa proie. « Comment va votre chat ?»«
Comme un chat. »
« La réapparition de Mr. Smith a dû faire très plaisir à votre fille. » En fait, elle a pleuré en réclamant sa mère. « Et c'en est fini de votre unique argument de défense, qu'un bon père aimant comme vous ne ferait jamais de mal à l'animal de sa fille. » Il ne répondit rien. Didi fit encore 2 pas et, avec un signe de tête vers le bureau du principal, demanda « Alors, que pensez-vous de votre rival ? Ethan Hastings est peut-être plus jeune, mais il semblerait qu'il passe plus de temps que vous avec votre femme. »« Vous devriez discuter avec Madame Lisbeth, » dit Jason.
« Ah oui ? Elle est au courant de la relation de Sandy avec Ethan ?»«
De sa vraie nature, oui. »«
À savoir, Monsieur Jones ?»
Qu'un élève ait le béguin, ça fait partie des risques du métier, demandez à n'importe quel enseignant.
Il m'a semblé que c'était plus qu'un béguin.
Peut-être pour Ethan Hastings.
Vous découvrez la situation, Monsieur Jones? Ça vous rend jaloux? Vous ressentez le besoin de remettre Sandy à sa place?
Je peux dire en toute franchise que je ne suis pas du genre jaloux.
Didi leva un sourcil ouvertement sceptique. Tout le monde est du genre jaloux. Même les enfants de 13 ans, à en juger par la bosse sur votre tête.
Il avait un livre de classe, répondit Jason par réflexe. Il m'a attaqué par derrière.
Didi lui souriait à présent. La gentillesse même.
Voyons, Monsieur Jones, cette situation a assez duré. Dites-nous ce qui s'est passé mercredi soir.
Les couples se disputent, on comprend ça. Surtout un jeune couple qui jongle entre le travail et les enfants. Et évidemment, comme Sandy est jeune, jolie et très seule presque tous les soirs, et vous, vous vous êtes mis en colère. Vous avez peut-être dit des choses que vous n'auriez pas dû dire, fait des choses que vous n'auriez pas dû faire. Plus vite vous nous le direz, plus vite on pourra en finir. Tournez la page pour vous et votre fille. Imaginez la peur que lui doit ressentir en ce moment. Imaginez ce que ça doit faire de se réveiller tous les matins en se souvenant des dernières paroles de sa mère. Il ne répondit rien.
Didi s'approcha encore au point qu'il sentait l'odeur du savon qu'elle avait utilisé pour sa douche matinale. Elle avait des cheveux blonds bouclés, un peu comme ceux de Sandy.
« De très beaux cheveux », avait dit Rhee, à qui sa mère manquait certainement déjà.
« Dites-moi où elle est, Monsieur Jones », murmura Didi à son oreille. « Dites-moi simplement où est Sandy et je la ramènerai à Rhee. »
Il se pencha si près que ses lèvres effleurèrent peut-être la joue de Didi et qu'il sentit son léger tremblement involontaire.
« Demandez à Ethan Hastings », murmura-t-il.
Didi eut un mouvement de recul. « Vous accusez un garçon de 13 ans ?» demanda-t-elle incrédule.
« Il faut faire confiance à la jeunesse », répondit-il de marbre, « vu ce que je faisais à cet âge-là. »
Le visage de Didi s'était refermé. « Monsieur Jones, » dit-elle avec rudesse, « pour un homme intelligent, vous vous conduisez comme un imbécile.
Parce que je refuse de vous laisser m'arrêter ?»
Non, parce que vous ne tirez pas les conclusions qui s'imposent. Je vais vous faire un dessin. D'après vous, ce n'est pas vous qui avez agressé votre femme,
exact.
Et pourtant, d'après ce qu'a dit votre fille, quelqu'un est entré chez vous mercredi soir et a agressé Sandy.
Exact, dit-il d'une voix plus rauque cette fois-ci.
Votre fille sait quelque chose, Monsieur Jones.
Plus qu'elle ne veut bien le dire. Marianne Jackson en est persuadée, moi aussi. Alors je peux vous dire une chose. Si cette gamine a ne serait-ce qu'une nouvelle tache de rousseur inexpliquée, je vous poursuivrai jusqu'en enfer. »
Il ne répondit rien.
Essentiellement parce qu'il était muet de stupeur.
« Vous voulez dire... Nous vous surveillons, à chaque minute de chaque heure de chaque jour. Débrouillez-vous pour qu'il ne lui arrive rien. » Il comprit alors non seulement la menace, mais plus subtilement l'avertissement de l'enquêtrice. Lui était la dernière personne à avoir vu Sandy en vie. Elle en savait plus qu'elle ne voulait ou ne pouvait le dire pour l'instant. Lui détenait la clé du puzzle. De sorte que celui qui avait fait du mal à Sandy aurait une sacrée bonne raison de... Jason ne put aller jusqu'au bout de son raisonnement. Il sentait comme un poids sur sa poitrine. Peur ou colère, trop difficile à dire. Peut-être que chez un homme comme lui, ses émotions ne faisaient qu'une. « Personne ne touchera à mon enfant », s'entendit-il affirmer. « Je protégerai ma fille. » « Ah oui ? Et combien de fois avez-vous pensé la même chose à propos de votre épouse ?» Jason Jones s'éloigna d'un pas raide. Didi ne le suivit pas. Elle retourna dans le bureau du principal, où Miller et elle firent une nouvelle tentative auprès d'Ethan, avec plus ou moins les mêmes résultats. Ethan Hastings était convaincu que Jason Jones était le mal incarné, mais incapable de fournir la moindre raison probante expliquant pourquoi Sandra Jones aurait prétendu que son mari était dangereux. Le garçon avait trouvé son héroïne et, en Jason Jones, le dragon qui gardait le donjon. Ses parents étaient affolés, et le père alla jusqu'à prendre Didi à part pour lui signaler que le frère de sa femme, l'oncle d'Ethan, travaillait dans la police d'État. Didi n'eut pas le cœur de lui répondre qu'avoir de la famille dans la police d'État ne les faisait pas franchement mieux voir de la police municipale. Miller et Didi prirent note de la déposition d'Ethan, saisirent son portable pour y chercher des messages compromettants échangés avec son enseignante de 23 ans, puis se mirent en quête d'Elisabeth Reyes, alias Madame Lisbeth, qui avait une vision plus impartiale de la situation. Lorsqu'ils eurent fini au collège, il était 5 heures et Didi avait envie de lasagne. « Vous êtes bien guillerette, » lui dit Miller. « C'est une bonne journée, » convint-elle. « Nous n'avons toujours pas retrouvé Sandra Jones et maintenant nous avons un troisième suspect sur les bras, un Roméo de 13 ans. Je ne pense pas que Sandra Jones couchait avec Ethan Hastings, mais ce sera marrant de fouiller son téléphone portable. » Miller lui lança un regard en coin. « Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Vous avez regardé les mêmes infos que moi. On dirait que toutes les enseignantes mignonnes sortent avec des élèves de 4e ces temps-ci. » « C'est vrai, » répondit Didi en plissant le nez. « Mais non, ça n'a pas de sens. Enfin quoi, ce n'est pas comme si une femme avec le physique de Sandra Jones avait du mal à attirer l'attention des hommes. » « C'est une histoire de domination, » lui assura Miller. « Ces femmes-là ne cherchent pas une relation d'égal à égal. Elles cherchent une relation avec un homme qui fera leurs 4 volontés. » Et comme ceux d'entre nous qui ont de la testostérone ne sont pas connus pour leur coopération, elles se rabattent sur les plus jeunes. « Donc c'est la faute à la testostérone !» s'étonna Didi. « Peut-être que je devrais passer plus de temps au collège de mon quartier, » soupira-t-elle. « Je ne crois quand même pas que Sandy couchait avec Ethan Hastings. Comment aurait-elle pu ? Tout le monde dit qu'elle était toujours accompagnée de sa fille. » Miller examina le problème. « Peut-être que c'était ce qu'on appelle... Comment déjà, une infidélité sentimentale ? Sandy a simplement séduit Ethan avec le téléphone portable, par des courriels, etc. Après quoi son mari est tombé sur quelques-uns des messages et l'a tué dans un accès de jalousie. Ou alors elle en a parlé au pervers du quartier, Aidan Brewster, qui l'a tué dans un accès de jalousie. Vous avez raison, nous avons trop de suspects, mais il faut voir le bon côté des choses. Le bon côté. La prétendue relation de Sandra Jones avec un élève nous donne un bon argument pour saisir son ordinateur. Miller en fut tout ragaillardi. « Bonne journée, » reconnut-il.